Messieurs, dames, bonjour, bienvenue dans Estivalitude. Quoi mon titre? Qu'est-ce qu'il a mon titre? Estivalitude, la petite boutique éphémère qui ouvre chaque jour sur France Inter de 9h à 10h. Et avec ceci...
C'est ouvert à tout le monde.
Tout le monde.
Tout le monde.
Ouais, tout le monde y sera. Formidable.
Si je voulais me contenter de raccourcis faciles et journalistiques, je vous dirais que mes deux invités ce matin racontent leur crise d'adolescence, mais ce serait banal et pour tout dire un petit peu fade. Alors voici Kali, on connaît le chanteur, le compositeur, l'interprète, mais dans Cavale, ça veut dire s'échapper. Il nous introduit dans l'intime de l'adolescence et dans son cas, c'est une adolescence punk. Bonjour Kali.
Bonjour.
Quant à Alexandre Jardin, il nous offre avec le vrai roman d'Alexandre un livre incroyable, inoubliable, un récit brut dans lequel il se fait exploser au moyen d'une ceinture de mots. Quand Zorro ôte le masque, seul demeure Don Diego. Bonjour Alexandre Jardin.
Bonjour.
Deux crises donc ce matin, la révolte des 15 ans et le cri primal des 53 ans. Magnéto Juliette.
France Inter. Estivalitude.
Qu'est-ce que ça veut dire ça encore?
Christophe Bourseiller.
Alors, je savais pas qu'Ali, je l'ai découvert en lisant votre livre, je savais pas que vous aviez été punk, et même, on pourrait dire, un sacré punk, et je voudrais tout de suite vous faire entendre un montage de notre réalisatrice Juliette Médeviel, où elle a compilé un peu des exemples de punkitude.
Well, hi everybody! Ain't it groovy?
Participe dans les rythmes assez crispants.
Alors, entre parenthèses, on reprend le cœur des refrains révolutionnaires. On ne va pas voter au premier tour et puis on manifeste contre
voilà,
le peuple.
C'est ce que je voulais vous dire, je peux le dire.
Résistance, mieux aurait valu faire un programme électoral. Le progrès n'est pas un orgasme.
Mais vous
m'allongez des choses. C'est le droit de perdre, de revendication étroite. Mais je vous emmerde, de revendication étroite. Je l'ai vécu, ça.
Punk jusqu'au bout des ongles, donc on a entendu successivement Joe Strummer, votre idole, hein, vous le dites dans votre livre, et puis alors un extrait plus récent de l'émission On n'est pas couché, où vous craquez, vous êtes punk.
Plus récent, ça fait quand même plus d'une dizaine d'années, peut-être, mais non, c'est pas moi qui ai craqué. C'était les gens en face de moi qui ont complètement craqué encore une fois. Ouais. Non, je me souviens, je m'étais fait gronder après l'émission parce qu'il y avait Monsieur Zemmour et Monsieur Nolot en face et puis je leur avais pris juste les fiches parce qu'ils étaient très méchants et j'avais déchiré tout. J'avais dit maman, essayez de faire l'émission sans vos fiches. Et j'avais lu à tous les invités, lui il va vous dire du mal, il va dire ça.
Vous allez pas me faire ce coup-là, d'accord?
Non, mais alors juste mon fait d'armes, c'est que j'ai été séparé par Hutch de Starsky et Hutch qui attendait dans les loges et qui se demandait ce qui se passait. Et dans ma vie j'ai été un jour séparé par Hutch.
Voilà. Ah bah écoutez, ça c'est quand même extraordinaire. Alors, il y a effectivement, oui, Alexandre Jardin, vous voyez, ça peut vous arriver, ce genre de choses, d'être séparé par Hutch.
Surtout, ce qui me plaît, c'est qu'il n'a pas respecté la règle d'un jeu qui était fictif.
Oui.
Et il a réclamé une émission réelle. Et en fait, ils ont paniqué.
Je crois.
Alors, Kali, quand on vous connaît, si on débarque et qu'on prend un de vos disques, on a du mal à imaginer que vous êtes l'émule de Joe Strummer de Clash. Pourquoi Joe Strummer?
Pour moi, c'est l'éternité, la vérité. C'est-à-dire, nous sommes en 1982 et c'est la première fête de la musique. Et à 3h du matin, la télé diffuse Rude Boy des Clash. Et là, j'étais seul sur mon canapé et j'ai vu Joe qui m'appelait dans la télé. Viens Bruno, viens avec moi. Et ses yeux regardaient derrière la montagne. Il m'a dit, viens avec moi, je t'amène là-bas. Et je l'ai pas lâché, il m'a pas lâché. C'est quelqu'un qui est pour moi l'exemple. C'est la vérité. C'est vraiment on crache tout sur la table et ça me touche beaucoup. Je le compare à Annie Girardot si je devais le comparer à une actrice.
Oui.
Ouais, vraiment des gens qui crachent leur vie sur la table et qui nous offrent tout comme ça.
Bah vous avez dit les clashs de Joe Strummer ont changé ma vie en la consolidant.
Oui.
Hein, c'est pas mal. Hein. Alexandre Jardin, dans votre livre. Vous êtes assez punk aussi, d'une certaine façon. Pardon, c'est peut-être un peu facile comme raccourci, mais il y a un côté punkitude. Vous foncez, vous tapez, vous y allez sans frein, et même vous vous faites mal.
Oui, je...
Il y a le désir de détruire le personnage, c'est ce que vous dites. Hein,
je le
que vous vous êtes bâti au fil quand même d'une très longue et riche carrière cinématographique aussi, mais principalement littéraire.
Et j'ai fabriqué un personnage pour arriver à survivre. Dans un réel qui au départ était impossible et réellement impossible à vivre et je m'en suis protégé qu'on est quelques centaines de millions sur Terre à s'inventer un personnage pour ne pas trop souffrir et j'ai décidé dans ce livre d'écrire l'histoire de mes mensonges C'était l'histoire de toute ma fausseté. Donc de me comporter effectivement en punk. Et c'est vrai que lorsque je suis arrivé l'été dernier, dans le bureau de mon ancien éditeur, et que je lui ai dit que j'allais faire ça, il m'a dit, c'est pas possible. Ça ne se fait pas. C'est-à-dire que tu ne peux pas déchirer toute la totalité. On a quand même un personnage, chaque écrivain, tu ne peux pas le déchirer. Tu ne peux pas
Votre personnage de fanfaron, sympathique, ouais. Quelqu'un qui vivait une vie rêvée, qu'on avait tous envie de vivre, d'une certaine façon, vous dites, tout ça, c'était du pipeau.
C'était un système de survie. Mais comme les gens qui nous écoutent, hein, lorsqu'ils racontent des bobards, ils commencent par se raconter des bobards, parce que ou leur couple, ou leur histoire de famille, ou de professionnel, enfin, parce qu'ils souffrent.
Je voulais n'appartenir qu'au merveilleux, je clapotais dans le tiède et baisais avec parcimonie. C'est terrible de dire ça de soi-même.
J'étais l'inverse des héros des romans d'Alexandre Jardin.
Et vous étiez un personnage de Cali, parce que Cali, quand vous racontez cette adolescence, vous la racontez sans phare. Enfin, vous racontez vos échecs, vous racontez votre frère qui vous pique la fille dont vous êtes amoureux. Puis il y a ce groupe punk par excellence, qui a un très beau nom, moi, je trouve, hein, Pénétration Anale. Quand on pense que Cali a démarré avec Pénétration Anale, ça fait quand même un choc.
Non, mais en tout cas, je trouve important de crier même aux adolescents qui vivent cette période difficile, le corps qui craque, on se pose toutes ces questions et on se dit, est-ce qu'il n'y a que moi qui vis ça? Alors il y a des mômes qui ont lu mon livre et qui m'ont dit, ça m'a fait du bien parce que justement, j'étais pas seul quoi. Vous aussi, vous avez vécu des choses difficiles, rentrer le soir, pleurer parce qu'on n'ose pas dire à celle qu'on aime, celle qui nous arrache le ventre, on n'ose pas lui dire le lendemain au lycée, pleurer pour tout ça et voilà, ça m'a fait du bien. Mais j'ai une question à poser à Alexandre Jardin.
Je vous en prie.
Donc, après, est-ce qu'il peut y avoir encore un livre après ça? Donc, comment ça se passe après?
Bien sûr. Ça commence.
Ça recommence.
C'est-à-dire qu'au lieu d'écrire une littérature de fuite du réel, d'idéalisation du réel, je vais écrire une littérature du réel. Avec passion, parce que, à côté de ma vie d'écrivain, ça fait maintenant plus de 15 ans, que je mène une vie de citoyen engagé.
Ouais. Dont on va parler tout à l'heure. Voilà. Attendez, vous n'y échapperez pas.
Et donc, je vais écrire une littérature complètement différente.
Ne pas être Alexandre fut longtemps mon identité, vous dites. Et donc, vous voulez devenir Alexandre. C'est ça, ouais. À 53 ans, c'est une espèce de crise existentielle.
Qui est la suite de mon engagement civique.
D'accord.
De mon engagement social. Où je n'avais pas prévu que j'allais autant aimer la vie réelle. J'avais pas prévu ça. Je pensais que c'était forcément quelque chose de blessant, le monde réel. Alors que quand on se bat avec des gens qui sont engagés, on tombe sur le courage.
Et dans les deux cas, il y a des drames. Parce que de vous, Cali, il y a quand même la mort de votre mère, hein, qui est un moment très dur pour vous.
Oui, et puis mon père qui sombre. Et puis,
votre père qui sombre.
Tout à fait. Maman est partie à 6 ans, c'est le sujet de mon premier roman.
Oui, ben oui.
Et donc, ce qui m'a beaucoup plu, c'est de faire vivre un petit garçon que j'ai découvert à cet âge-là. On s'est juré fidélité toute la vie, comme ça, ensemble, on céderait toute la vie. Et on retrouve les deux héros, quelque part, à 15 ans, l'adolescence.
Avec ce père très indulgent, quand il apprend que votre groupe s'appelle Pénétration Anale, il dit oui, mais la musique est bonne. Il essaie de faire un effort, enfin, il ne veut pas vous punir, il ne veut pas prendre la mouche.
Mon père était l'exemple total, quoi, du bon papa, qui m'a guidé, qui m'a amené sur des traces incroyables. J'aimerais arriver à sa cheville quant à l'éducation de mes propres mômes. Il m'a donné cette phrase importante, il m'a dit, mon père, tu peux faire toutes les bêtises que tu veux, je ne le saurai jamais, mais je te fais confiance. Donc j'ai pas fait des bêtises si terribles que ça, grâce à ça.
Et vous, Alexandre, votre père, c'est un homme que vous aimiez plus que tout. C'est absolument magnifique les pages que vous consacrez à la mort de votre père. On vous cache tout, puisque c'est la famille du non-dit absolu, de la réinvention du réel, des belles histoires, en quelque sorte. Et vous racontez, vous réglez des comptes hein, dans ce livre. Il y a une part de violence.
Alors mais moi, contre moi.
Non, mais contre les autres aussi, qu'est-ce qu'ils en prennent? Écoutez, vous révélez des choses intimes, il y a un abus sexuel, il y a des choses importantes.
Mais les familles qui sont construites sur le déni ont forcément des placards absolument pleins à craquer. Et c'est vrai qu'au départ de notre famille, il y a un grand-père, dont je tiens mon nom, qui est le directeur de cabinet de Pierre Laval en 42-43.
Tout à fait, Jean Jardin.
C'est quelque chose qui est impensable dans une famille, après la guerre. Et donc, on nous disait qu'on était en Suisse, parce que l'air était pur et le lac beau. ne disait pas qu'il aurait été tué, sinon. Donc, dire le réel, c'était synonyme de mort. Et donc, dans cette famille, le réel était impossible. Et effectivement, on m'a caché la mort de mon père. On m'a pas dit qu'il allait mourir. Et lorsqu'il disparaît...
Personne ne vous dit rien.
Non. Et on m'a expédié tout seul.
Et vous découvrez la mort de votre père dans le journal. C'est ce que vous dites dans le livre.
Ça m'a terrifié que ce soit imprimé parce que je ne pouvais plus me raconter. Et puis on m'a envoyé au fond de l'Irlande le lendemain de la messe d'enterrement tout seul. Et c'était invivable. Donc j'ai essayé de me noyer. On m'a repêché. Et puis j'ai commencé à l'inventer.
C'est troublant parce que la mort de mon père, je suis parti le lendemain en Irlande aussi.
C'est vrai?
Ouais. Et je l'ai vu. Je l'ai vu dans une chapelle. Je me suis recueilli. Et je l'ai vu derrière moi, vraiment, sous la forme d'un personnage en toile de bure. Il m'a souri. Je l'ai suivi. Il a disparu. C'était lui, c'est sûr.
Alors, pour calmer le jeu, peut-être, je vous propose un voyage éclair dans le R&B américain. Bah oui, c'est de la radio, on est bien obligé. Faye Webster, Come to Atlanta.
Estivalitude, Christophe Bourseiller.
Alexandre Jardin, je rappelle que je suis sur France Inter en compagnie ce matin de Cali et d'Alexandre Jardin. Alexandre Jardin, vous avez une question que je vous avais demandé de réfléchir à des questions. Pour Cali, laquelle est-ce?
Quand avez-vous l'impression d'être réel?
Question philosophique, hein?
Non, charnel.
Dans la seconde qui précède l'orgasme. Ouais, je peux plus rien retenir, je peux plus rien agripper, je suis obligé de plonger, c'est là.
Et juste après, vous reprenez le contrôle?
Involontairement, malheureusement, oui. C'est-à-dire qu'après l'orgasme, on va dire.
Donc le seul moment où on est vraiment sincère, c'est juste avant l'orgasme.
On m'a posé la question, je réponds pour moi, pas pour les autres.
Bien sûr. Alors dans votre livre, Cali, il y a quelque chose qui est intéressant, je veux dire, c'est il y a une très belle histoire d'amour, mais une histoire d'amour assez particulière, parce que vous la vivez avec un personnage qu'on n'arrive pas à cerner, qui s'appelle Sylvia. Sylvia, déjà, elle est chauve. Vous pouvez m'expliquer, elle s'est rasée la tête, ou c'est pas de sa faute, ou c'est pourquoi elle est chauve?
Dans le roman, donc, Sylvia est une fille qui vit mal le fait d'être embarrassée par son corps.
Ouais.
Elle est très grande, trop grande. Ouais. Elle est très imposante. Et évidemment, les enfants sont cruels et se moquent d'elle. Donc, elle est toujours toute seule. Et c'est une fille qui, le premier rendez-vous que nous avons, je lui saute dessus parce que je suis terriblement dévasté, car mon meilleur ami est parti avec la femme que j'aime, avec la fille que j'aime, et je lui mords les lèvres jusqu'au sang. Et je la presque viole dans la cour de classe du lycée, dans la cour du lycée.
Oui, vous lui malaxez les seins.
Je lui arrache les seins, c'est terrible. Et puis après,
elle le prend bien. Hein.
Elle revient quelques jours après à l'école, tondue, rasée. Et puis après, c'est elle qui va m'initier, qui va m'apprendre à rouler des galoches, et je deviens le champion olympique du roulage de pelle après, grâce à Sylvie.
Et puis elle fait mieux que ça, puisqu'elle elle organise en quelque sorte votre dépucelage, si j'ai bien compris.
C'est elle qui décide où, comment, quand, avec qui.
Et alors elle choisit le sosie de Patti Smith.
Elle choisit une fille qui a 2 ans de plus que moi, donc je suis en seconde, elle en terminale, c'est une galaxie. Et la fille ressemble étrangement à Patti Smith. Elle s'appelle Patricia, les gens l'appellent Patou. Et moi je dis Patou, c'est pas possible, ça sera Patti Smith. Et donc, juste avant de faire l'amour, je me dis, je vais faire l'amour à Patti Smith. Waouh.
Ça devait être un grand moment quand même. Hein. Vous avez une question, Cali, pour Alexandre Jardin. Quelle est-elle?
Alors, ma question, c'était... quelle est la chose la plus folle que vous ayez faite par amour?
Et là, il ne faut plus mentir, Alexandre, parce qu'on sait que vous avez inventé des romances extraordinaires. Mmh. Maintenant, je le sais, parce que j'ai lu votre livre.
Réécrire ce livre qui sort là. C'est-à-dire accepter de publier un livre sans aucune forme de filtre pour la femme que j'aime. Et qu'elle accepte de vivre avec ce type-là.
C'est-à-dire, vous dites, voilà ce que je suis, prends le dossier tel qu'il est.
Oui, et donc le réécrire. Courir le risque d'être absolument réel en face d'une femme. Je ne savais même pas que c'était possible, puisque j'ai passé ma vie à fabriquer de l'idéal, à fabriquer de la fuite. Et elle vit avec moi. Alors que ça peut faire terriblement peur. Un type qui avoue son énorme part de mensonge, de fiction, de fuite.
Oui, mais vous n'êtes pas responsable. Vous le dites vous-même, mon père aspirait l'attention des femmes, ma mère attirait les hommes. C'est pas facile d'être à la hauteur, d'être le fils de deux surhommes comme ça, surhommes et surfemmes.
C'était impossible. C'était absolument impossible.
Votre mère avait 3 hommes en même temps qui logeaient à la maison, chacun dans sa chambre. C'est quand même compliqué, non?
Et si je peux me permettre...
Je me suis défendu.
Si je peux vous voler ce petit moment-là, quels sont les premiers mots de l'amour de votre vie quand elle a refermé le livre?
Je n'en ai pas le souvenir, mais enfin, j'ai le souvenir de son regard. Je me souviens très très bien de la tête qu'elle a fait. Cette femme est un bloc de vérité. Et je sais qu'elle m'accepte. Et ce qui est l'acte d'amour le plus puissant, quoi. Lorsque l'autre vous accepte, que vous ne vous défendez plus de rien, que l'autre vous accepte. Et c'est vrai que ça, j'écris pour vivre des moments comme ça.
Cali, je vous ai demandé quel était le son qui vous résumait. Donc là, on est dans la radio, c'est de la radio bien sûr, et on est dans la sincérité totale. Et vous m'avez dit, le son qui me résume, c'est ça.
Alors l'amour, c'est quoi? Ta voix, tes yeux, tes mains, tes lèvres. Nos silences, nos paroles. La lumière qui s'en va, la lumière qui revient. Un seul sourire pour nous deux.
Jean-Luc Godard, Anna Karina, pourquoi?
Je crois que c'est le son qui... Je pense qu'il peut se passer les pires choses peut-être entre l'amour de ma vie et moi-même comme ça. Et je crois que c'est le son qui peut... On n'a pas besoin de parler. On se reprend la main à nouveau et on peut repartir pour des milliers de kilomètres à nouveau. Elle aime cette voix, elle aime ces mots, elle aime ce son. Et j'aime tellement profondément cette voix d'Anna Karina, Alphaville et ce son. Je l'ai mis au milieu d'un concert, comme ça, au milieu d'une
ah
de
bon
mes chansons.
Ouais.
J'ai arrêté la chanson et j'ai passé ce son. Je voulais que les gens ressentent quelque chose, ce que je ressens moi aussi à ce moment-là.
Très belle musique, extraordinaire ouais. musique et paroles d'amour et extraordinaire musique. Et chez Godard, il y a plein de phrases d'amour extraordinaires. On pense dans À bout de souffle, quand Gene Seberg questionne Jean Parvulesco en lui demandant qu'est-ce que c'est l'amour pour vous. Alexandre Jardin, vous, votre son, le son qui vous résume, c'est ça. J'ai demandé un orage très violent à Juliette Médevielle. Je lui ai dit, il faut que ça soit violent parce que tout simplement, la période est à la violence pour vous. Vous êtes dans un état d'orage.
Oui. C'est le livre le plus risqué. C'est un orage. Ça craque. C'est un livre qui a été refusé dans son principe même. J'ai dû changer d'éditeur. C'est comme si tout craquait quand vous écrire l'histoire de ces mensonges au moment où le bouquin est distribué physiquement en librairie et qu'on sait que c'est irréversible, c'est-à-dire que on ne va plus pouvoir se défendre de rien. C'est fou une trouille.
Est-ce que c'est encore un roman?
Oui, c'est mon premier véritable roman.
C'est le premier roman d'Alexandre Jardin qui
oui.
va maintenant détruire son œuvre.
Qui en écrit une autre. C'est un autre écrivain qui écrit ce livre. Et c'est tétanisant de peur au moment où ça sort. Et puis arrive ce miracle. Les gens l'entendent. C'est-à-dire qu'ils acceptent qu'on quitte son rôle. On est en train peut-être de changer d'époque. Je n'ai pas été lapidé. Alors que je m'y attendais. Les gens, en fait, se posaient les mêmes questions.
Ceux que vous mettez en cause ont-ils réagi? Ou vont-ils réagir? C'est possible aussi. Vous êtes très direct. Enfin, vous accusez un demi-frère de viol. Vous parlez d'une de vos compagnes en termes extrêmement violents. Vous parlez de quelqu'un qui vous a critiqué
en disant
que son
mots.
Père s'est pendu avec un porte-jartel. Enfin bon.
Mais en fait, la vraie violence, c'est lorsque le mot réel est évité et qu'on en met un autre. C'est ça l'hyper-violence. C'est là où le mal arrive. C'est lorsque quelque chose est mal nommé. Et quand vous écrivez un livre comme ça, vous remettez le mot exact. Vous n'utilisez plus le mot de contournement. Alors forcément, ça fait un livre pas convenable. mais ça vous, en fait, vous rebranchez la prise de terre.
Et avez-vous reconnu, si on doit parler de la forme, votre style?
Moi, je l'ai reconnu.
C'est davantage le mien. Je préfère cette langue-là. Elle ne m'est pas du tout étrangère. Je ne joue pas. Mais pour ça, ça a été un long chemin.
Alors Cali, on va écouter maintenant un extrait de votre dernier disque qui était sorti en octobre 2018. On attend le prochain bien sûr, mais je crois qu'il est déjà plus ou moins dans votre poche. Enfin donc c'est plutôt positif. ce disque, c'est Cali chante Léo Ferré. Bah, Léo Ferré, un punk par excellence, ouais. Avant tout le monde, et c'est Joli Môme.
T'es toute nue sous ton pull, y a la rue qu'est ma boule, Joli Môme. T'as ton corps à ton cou et le bonheur par en dessous, Joli Môme. T'as le rémel qui fout quand c'est le dégel des amants, Joli Môme. Ta prairie, ça sent bon, fais-en don aux amis, Joli Môme. T'es qu'une fleur de printemps qui se fout de l'air et du temps. T'es qu'une rose éclatée que l'on pose à côté, Joli Môme. T'es qu'un rang de soleil dans le chagrin du réveil. T'es qu'une vente qu'on éteint comme une lampe au matin, Joli Môme. Tes baisers sont pointus comme un accent aigu, Joli Môme. Tes petits seins sont du jour à la coque, à l'amour, Joli Môme. Ta barrière de foufou, faut se la faire, mais c'est doux, Joli Môme. Ta violette, c'est le violon qu'on violente et c'est bon, Joli Môme. instant qui se fout de l'air et du temps. Dès qu'une étoile d'amour que l'on toile au beau jour, joli moment. Dès qu'on prend sur les i du chagrin de la vie, dès qu'une chose de la vie qu'on arrose, qu'on oublie, joli moment. T'as qu'une paire de mirettes au poker des conquêtes, joli moment. T'as qu'une rime au bonheur, faut que ça rime ou que ça plaît, joli moment. T'as qu'une source au milieu qui éclabousse du bon Dieu, joli moment. T'as qu'une porte en voile blanc que l'on pousse en chantant, joli moment. Et froissé, joli moment. Dès qu'une feuille de l'automne connaît feuille monotone, dès qu'une joie à l'aller vient chez moi la retrouver, joli moment. Et ton poule, c'est ton poule, y'a la rue qu'est ma boule, joli moment.
Joli môme, donc une chanson bien sûr de Léo Ferré interprétée par Kali.
Vous avez dit.
Ah non,
vous avez dit. De quoi? Qu'est-ce que vous avez dit?
Pourquoi vous ne l'avez pas dit plus tôt?
On a tous des opinions, mais on s'en fout. C'est pas la question. Pour rentrer sur Bleu Blanc Zèbre, je ne demande pas aux gens s'ils sont à droite, à gauche ou je ne sais quoi. Je leur demande s'ils passent à l'acte.
Si mes deux ne s'attendaient monter à bord de ce grand bateau noir, on regarde et regarde, ils sont fous, on pleurait de chagrin. Alors que des pétards explosaient dans les rues, leur fête insupportable et puis leur feu de joie, nous partons tête basse, digérer notre nouveau mire, notre dégoût. Résistance. Résistance.
Résistance, c'est Kali qui chante la résistance contre Sarkozy. Au moment précis où vous, Alexandre Jardin, bah, vous soutenez Sarkozy.
Non.
Non?
Non.
Vous l'avez pas soutenu?
Non.
J'ai cru comprendre que vous étiez plutôt favorable à un moment donné.
J'ai glissé à grand regret un bulletin de vote, mais je ne l'ai jamais soutenu.
Ah, vous avez glissé un bulletin de vote pour Sarkozy sans le soutenir?
Oui, je n'ai
ça
jamais...
Ça peut arriver, ça peut arriver.
Vous avez essayé ça de créer un débat, vous n'avez pas
réussi. Du tout, je ne veux pas créer de débat, parce que vous avez un point commun tous les deux, c'est que vous êtes tous les deux beaucoup engagés. Alors Kali, c'est vrai que de par vos origines, vous êtes un homme de gauche. Vous avez toujours été à gauche, Kali, non?
Oui, beaucoup d'atavisme, évidemment. Ouais, mon grand-père dans les brigades internationales,
c'est ça.
S'est battu contre tous les fascismes du monde. Et mon père, je le voyais, c'était Lino Ventura physiquement. Il était dur comme ça. Enfin, c'était un beau garçon. Et ça me troublait. Je le voyais rentrer des meetings politiques, souvent avec les larmes aux yeux. Il avait tout donné, tout craché. C'était... Et un jour, il a déchiré sa carte du PS devant nous aussi. C'était assez troublant,
cette
histoire. C'était les moments où c'était entre Rocard, il y avait Mitterrand, Rocard, il y avait
la fin du Mitterrandisme.
C'était assez troublant quoi, comme histoire. Donc oui, de gauche. Alors après, j'ai des amis à droite, j'ai des amis à gauche.
Ah bah ça, oui. Ça,
non, mais voilà, c'est ce que je veux dire.
Que vous demandez pas leurs opinions politiques
non,
aux gens que
mais
vous
ce que je veux dire, c'est ça. C'est que parce que souvent on dit ouais gauche et tout ça. Non, moi, ce que j'aime bien aujourd'hui, c'est soutenir des associations et des ONG.
Enfin, votre première liste, c'était Jeunesse Incorruptible. C'est pas mal, ça, comme nom pour une liste.
20%. Ouais.
Ah bah quand même.
Et la deuxième fois où je me suis présenté, ça s'appelait Ça va chier.
C'est encore mieux.
Il y avait une photo, il y avait un papier toilette comme ça, et les touristes s'arrêtaient pour prendre la photo, parce que les autres avaient leur affiche très sérieuse avec les costumes et tout ça là. Et moi, elle était sérieuse, hein. Il y avait marqué Bruno Caliccioli, sanibroyeur municipal, avec un tampon de la poste bientôt dans votre mairie.
Ça, j'aurais voté pour vous immédiatement.
20%.
Ah bah oui, mais c'est normal, avec une campagne pareille, c'est la moindre des choses. Après, vous avez soutenu, bien sûr, Ségolène Royal, François Hollande. Et aujourd'hui, vous êtes plutôt du côté des marches pour le climat, je crois. Hein. Après le départ de Nicolas Hulot, vous avez signé une tribune libre contre le réchauffement climatique.
Oui, alors en tout cas, je suis le vrai combat là. Moi, je soutiens vraiment les, si on doit parler de ça, les citoyens solidaires comme Cédric Héroux,
vraiment.
Ce sont des gens qui risquent tous les jours la prison.
Pour venir en aide aux migrants, hein, c'est
aux migrants, ouais. C'est assez troublant. Alors je viens de là, je descends de migrants, on descend tous de migrants. C'est assez troublant de voir ces hommes, ces femmes, ces enfants qui fuient les exactions et la mort et les viols et qui se disent que peut-être ils sont accueillis dans un pays des droits de l'homme. C'est troublant le sort qu'on réserve à ces gens-là. Ouais. Donc je suis vraiment derrière eux. Je trouve ça merveilleux leur travail quotidien.
Alors vous, Alexandre Jardin, vous êtes profondément politisé, on pourrait dire. Il y a un vrai engagement politique. C'est un engagement politique qui a peut-être un défaut pour beaucoup de gens, c'est que vous êtes un inclassable. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à vous mettre dans une case. Tout à l'heure, j'ai essayé de vous mettre désespérément dans une case de droite, en disant ça va peut-être marcher, la droite contre la gauche, mais à l'évidence, ça marche pas, d'autant plus que votre mouvement bleu-blanc-zèbre, un de vos nombreux mouvements, enfin bleu-blanc-zèbre, c'est celui qu'on connaît le mieux peut-être, vous l'avez lancé justement, c'est ce qu'on a entendu tout à l'heure, en disant, moi, c'est juste la pratique. C'est pas les idées, c'est qu'est-ce qu'on apporte pour faire avancer les choses, c'est ça ?
Ce qui m'émeut très profondément, c'est lorsque le citoyen devient acteur. Ce que vous citez, ce sont des gens qui prennent eux-mêmes l'initiative. Ils disent pas à un autre de le faire. Ils le font. Et c'est vrai que cette mouvance politique, elle n'a pas pour l'instant de traduction électorale.
Vous êtes jamais reconnu dans Macron ?
Non. Au tout début, je me suis posé la question. Je me suis dit, est-ce qu'il y a une part de vérité là-dedans?
Parce que Macron annonçait un monde nouveau, il disait on va changer les paramètres.
J'étais le voir. Je suis tout. A priori, lorsque quelqu'un dit quelque chose, je vais souvent voir. Et puis j'ai compris que non, qu'il voulait une révolution technocratique, hyper centralisée, enfin, donner le pouvoir au X-Pont, aux polytechniciens, ce qu'il a fait. Alors que il avait enrobé les choses du discours d'En Marche, quoi, du début. Mais moi, ce qui m'a intéressé très profondément, c'est ce que les gens font. Et donc, on a fédéré au sein du mouvement des ZEB 300 mouvements qui sont ce qu'on appelle des FEZE. C'est-à-dire c'est des élus.
Des assos, c'est ça?
Non, ça n'est pas, non. Pas que. Oui, ça peut être de l'économie sociale et solidaire, ça peut être des mouvements de citoyens, ça peut être des élus locaux. Des entreprises parfois, mais ce qui
vous avez été récupéré, vous avez eu peur d'être à un moment donné récupéré par la droite, par la gauche?
Non. Aujourd'hui, ils sont réunis sur la plateforme Bleu Blanc Zèbre et on essaye de faire ce qu'on appelle des bouquets de solutions, c'est-à-dire de regarder comment, en faisant coopérer ces mouvements, on peut faire beaucoup plus. Et moi, j'en ai fondé un très gros qui s'appelle Lire et faire lire. On embarque les retraités français dans nos écoles maternelles et primaires pour qu'ils transmettent le plaisir de la lecture aux enfants. Et on fait lire 700 000 enfants, et on a plus de 20 000 bénévoles. Si les gens qui nous écoutent veulent faire ça à la rentrée, ils vont sur lire-et-faire-lire.com, on s'inscrit, et on vaccine nos enfants contre l'échec scolaire. C'est le plus grand programme français d'intégration, parce que c'est tendre. C'est-à-dire que on tisse une alliance entre les générations dans nos quartiers. Et ça, pour moi, c'est la politique absolument réelle. C'est comment on recoue une société totalement déchirée.
Par en bas. Vous parlez des gilets jaunes, d'ailleurs, dans votre livre. Pourtant, on s'attend pas à ce que vous parliez d'un rond-point. Et à un moment donné, au détour d'une page, vous êtes sur un rond-point avec votre enfant. Et puis, vous discutez avec les gilets jaunes. Et ce qui est le plus touchant pour vous, c'est qu'ils n'ont pas les mots. C'est-à-dire, vous leur demandez de dire leurs revendications et ils se renvoient tous la balle en disant, moi, je sais pas parler, mais demandez à Roger qui sait parler, qui dit, non, vous prenez un café plutôt, je préfère rien dire.
J'ai follement aimé tous les débuts de ce mouvement. C'est-à-dire, à un moment, un pays qui dit non. On marche plus. Alors ensuite, c'est devenu autre chose. Mais au départ, c'est ça. Ce sont des gens qui se sont pris en main. Et je suis spontanément très touché par les gens qui se prennent eux-mêmes comme point d'appui. C'est-à-dire, je pense à un élu local rural qui, pour sauver son territoire, a fait venir 6 familles de gens qui viennent de Syrie, de zones bombardées. Ça a été très long pour arriver à faire admettre ça à la population. Et puis ça réussit, ça revitalise son petit lopin de France. J'aime les gens qui sont acteurs, tout simplement acteurs, comme les 20 000 personnes de Lire et faire lire.
On fait claquer la porte du saloon, les figurants aux yeux noirs se retournent, un silence pesant règne dans la salle, nonchalant, impassible, on s'installe à la fenêtre, le spectacle commence. Au loin, la poussière d'une diligence, de cow-boys mal rasés, le regard louche, l'arme au poing pour ne pas rater le coche. Sont embusqués de part et d'autre du chemin. Ça va péter, va y avoir du sang sur les mains. Toi t'as la tienne sur mon revolver. Je ne tiens plus, mon pouce s'accélère. Non, je ne dégainerai pas, je ne dégainerai pas, je ne dégainerai pas. Non, je ne dégainerai pas, je ne dégainerai pas, je ne dégainerai pas. Au passage du convoi très convoité, les deux brigands cinglés font siffler leurs balles. Contre ma cuisse, mon colt est chargé. Tu me regardes et les chevaux s'emballent. Le lourd chariot se renverse sur le côté. Les bagages et les passagers ventrés. Les assassins enfin s'emparent du pognon. Tu me retiens par le bout du canon. Non, je ne dégainerai pas, je ne dégainerai pas, je ne dégainerai pas. Non, je ne dégainerai pas, je ne dégainerai pas, je ne dégainerai pas. Non, je ne dégainerai pas, je ne dégainerai pas, je ne dégainerai pas. Non, je ne dégainerai pas, je ne dégainerai pas, je ne dégainerai pas. Je ne dégainerai pas. Au soleil couchant s'enfuit les malfrats. Générique, et la salle s'illumine. Les spectateurs sortent sonner du cinéma. Toi t'as la main dans la poche de mon jean.
Abel Chéré, Western Eros, une programmation érotique et rive gauche de Muriel Pérez.
Estivalitude sur France Inter.
Alexandre Jardin, il y a quelque chose dont il faut qu'on parle, je crois, sinon ça serait dommage, parce que c'est très important dans votre livre, c'était déjà le cas, vous avez consacré à cet homme un autre livre qui m'avait beaucoup touché, qui s'appelait « Des gens très bien » en 2011. Ce personnage, c'est votre grand-père Jean Jardin, et j'aimerais vous faire entendre un document que vous connaissez peut-être, c'est ce que votre père Pascal Jardin dit de la guerre au micro d'Yves Mourouzi sur France Inter le 7 juillet 1971.
Collaborer, c'était la raison, résister, c'était l'espoir. C'est ainsi que vous résumez un peu cette période. C'est comme ça que vous la ressentiez à ce moment-là ?
Non, je ne savais pas ce que je ressentais à cette époque-là. C'est les conséquences de cette époque-là qui m'ont beaucoup frappé, parce que si vous voulez, après la guerre, j'ai été mis en cause en tant que fils de collaborateur. Il m'était pas plus facile d'oublier dans les lycées où j'ai fait après de brefs séjours. Il n'était pas plus facile d'oublier en 45, 46, 47 que j'étais fils de collaborateur, qu'il était facile à un juif d'oublier pendant la guerre qu'il était juif, en France. Ça m'a profondément marqué.
Qu'est-ce que vous pensez de ce que dit Pascal Jardin dans cette interview ?
D'abord, ça me choque beaucoup de faire ce type de parallèle.
Oui, il fait un parallèle entre... Il dit que c'est aussi douloureux d'être fils de collabo que d'être fils de juif, en quelque sorte.
Dans les conséquences, il y avait les jeunes.
Il y avait une différence, oui.
Une énorme différence.
Mais
ce qui me bouleverse chez lui, même si je dis bien ce que je viens de dire, ce qui me bouleverse, c'est que ça a été invivable pour lui. C'est-à-dire que ça l'a fait divorcer avec la réalité. Et il est devenu un auteur frénétique, un remplaciste qui a totalement remplacé le réel par de la fiction. Parce que ça a été invivable. Et donc il s'est mis à écrire 120 films en mourant à 46 ans. Et certaines années, il en a écrit jusqu'à 17 dans l'année. Ça veut dire qu'il a totalement quitté le réel. Et quand je l'ai perdu, moi, à 15 ans, il y avait ce vide énorme, et j'ai fait comme lui. Je suis devenu un remplaciste. J'ai commencé à remplacer tout, y compris lui, puisque je l'ai très peu eu. Et j'ai commencé à imaginer un père qui n'existait pas, à rallonger, puisque je manquais de substance, de matière, de souvenirs. J'ai commencé à imaginer des souvenirs imaginaires. Puis quand je suis devenu écrivain, j'ai publié sur lui des livres qui étaient faux. Un livre comme Le Zubial, parce que j'en avais besoin. Et je suis devenu une sorte de faussaire qui imaginait sa famille, parce que le réel était invivable.
Mais il y a très vite un décalage qui s'instaure et que vous ne supportez pas, c'est très rapide. Oui. En fait, dès le début des années 2000, ça commence, des gens très bien, c'est en 2011. Alors, et là, tout à coup, vous vous révoltez contre la légende familiale.
Mais c'est ma première sortie vers le réel, ce livre, Des gens très bien. Mais à l'époque,
je parlais donc de Jean Jardin, qui travaillait avec Pierre Laval pendant la guerre, qui était collaborateur et qui s'est réfugié en Suisse, il faut le préciser, en 1944.
Mais voir le réel à l'intérieur d'une famille, c'est un problème considérable. Parce qu'il y a de l'amour. Et donc, j'ai écrit ce premier livre, qui est l'acte 1 de ce livre, le roman vrai d'Alexandre. C'est-à-dire que, pour moi, devenir quelqu'un de réel, ça a été très long. Et c'est vrai qu'en publiant ça, je découvre que je ne suis pas tout seul.
Alors ça, il y a une soirée que vous racontez dans votre livre, dans le roman vrai d'Alexandre, sur une soirée à la librairie Kléber à Strasbourg, où les bouches s'ouvrent.
Et oui, parce que quand vous courez le risque d'être vrai, réel, vous permettez aux autres de l'être. C'est-à-dire qu'au moment où vous baissez la garde, les autres baissent la garde. Et ce jour-là, dans cette librairie, on était en Alsace en plus, tout à coup, les gens se sont mis à parler de la réalité de leur passé familial. Ça a été hallucinant. Il y a même un très 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 vieux monsieur qui tout à coup a dit, moi monsieur, avec un accent alsacien, moi monsieur, j'en ai fait des rafles. Parce que je voulais pas aller à Buchenwald, j'étais un malgré nous, je voulais pas. Et en fait, tout le non-dit français s'est dit à un moment, dans cette librairie, c'était incroyable. Eh bien, cette expérience, c'était... Tout à coup, lorsque vous dites quelque chose d'absolument vrai, vous permettez aux autres de l'ouvrir. C'est ce que je vis en ce moment avec la sortie de ce bouquin.
Cali, ça vous est arrivé déjà? Moi, je trouve que dans votre travail, dans votre œuvre, il y a une grande sincérité. On peut dire, vous dites les choses, vous êtes assez à découvert. Ça vous est déjà arrivé d'avoir le sentiment de tricher? Est-ce qu'il y a des choses que vous regrettez?
J'ai tellement menti dans ma vie et triché, que ça me fait un bien fou d'avouer souvent, d'avouer les choses. Mais c'est troublant ce que raconte Alexandre Jardin là, parce que dans les salons du livre, je croise des gens qui viennent me raconter leur histoire, et je suis sûr qu'ils ne le racontent pas à des proches, parce qu'ils se disent alors lui, il a mis son cœur à nu, il nous raconte sa vie ou des choses de sa vie, alors je peux lui raconter.
Donc il peut entendre.
Il peut entendre. Ouais. C'est assez troublant ce partage là, qui est très intime. C'est la différence avec une chanson. Une chanson, elle passe à la radio, des milliers de personnes l'écoutent. Là, le roman, on l'écrit pour une personne. Et la personne qui vient vous parler, on est juste face à face. Et entre les deux, il y a ce livre-là. Et c'est assez troublant.
Et vous pouvez comprendre Pascal Jardin quand il me dit, finalement, c'était pour moi aussi difficile d'être fils de collabo que le fils de déporté?
Non,
c'est une phrase qui est difficile à avaler. Mais qu'est-ce que vous en pensez, Cali?
Moi, je n'ai rien en penser parce que je suis face au fiston, quoi, qui est là, quoi. C'est son histoire, sa vie, et il la porte comme il peut, magnifiquement, et puis, non, je dirais rien là-dessus, ouais. On fait comme on peut, vous savez.
Alors moi, ce que je trouve formidable chez vous, Alexandre, sérieux, c'est le bordel, j'y comprends plus rien, c'est qu'il y a chez vous quelque chose de pascalien. C'est-à-dire, vous vous flagellez. Vous n'arrêtez pas de dire, je me suis trompé, mes lecteurs m'en voudront, et vous condamnez les faussetés mondaines.
Bien sûr.
Il y a cette dimension-là chez vous.
Mais, j'ai écrit ce roman vrai pour moi, pour sauver ma peau, mais aussi contre une époque qui est remplie de personnages. peut pas allumer la radio, écouter la télé, sans voir des journalistes qui jouent des personnages, qui posent des questions à des personnages et
moi,
qui
par exemple.
Non mais tout le monde sait que c'est vrai.
Bien sûr.
Que ce phénomène a envahi notre société.
Mais à quel moment donc on décide de le nommer roman? L'objet là, comment on décide?
Alors je l'ai nommé roman parce que pour moi aujourd'hui l'essence du romanesque gît dans le réel.
D'accord.
Alors que pendant des années j'ai cru que c'était à l'extérieur, que c'était dans la fuite. Et pour moi il n'y a pas de plus romanesque que de s'approcher d'un être humain avec une loupe.
Tu veux que je te raconte un souvenir?
Un souvenir, oh oui.
Si vous saviez ce qui m'est arrivé, j'en ai des choses à vous raconter.
Alors on arrive maintenant à un moment un peu plus détendant, parce que là on est dans une certaine gravité, mais je vous rappelle que nous sommes sur France Inter, c'est le matin, c'est l'été, enfin bref, on a envie quand même d'une forme de détente psychique. Et la question que je vous ai posée, à laquelle j'aimerais que vous répondiez, alors peut-être vous Cali d'abord, c'est quel est votre plus incroyable souvenir de vacances?
Sans hésiter, je dirais 16 ans, le moment où on fait l'amour la première fois. Et cet été incroyable où j'ai travaillé, vraiment je travaillais à la voirie dans le village, donc je ramassais les poubelles et le soir, j'étais émancipé, j'étais majeur à 16 ans, j'avais une crêperie à moi avec mon groupe punk, les Pénétrations Anales.
Pénétrations Anales.
On était la seule crêperie, donc les gens venaient. Et ceux qui reconnaissaient la musique qui passait, qu'on passait, on leur offrait le repas. Comme ça, c'était fou, on faisait ce qu'on voulait. Et à la fin, j'avais tellement travaillé, j'avais gagné de l'argent. Et j'étais fou amoureux d'une Anglaise, Louise, qui est venue dans mon village. Elle est partie chez elle, en Angleterre, on devait plus se revoir. Et au lieu de retourner au lycée, j'ai pris l'avion, je suis allé la rejoindre. Donc ça a clos cet été-là, j'ai fait une fugue de 2 mois, la police me cherchait partout. Et mes seuls camarades de pénétration anale, Alec et Fernand, eux deux savaient où j'étais. Ils ont été cuisinés par la police et tout ça. Et donc c'est un été assez bouleversant pour moi.
Et vous, avez-vous aussi une histoire comme ça? Vous étiez tombée amoureuse d'une étrangère que vous avez raccompagnée à la gare. Et à partir de là, il y a deux récits. Vous êtes très honnête dans votre livre. Il y a le récit imaginaire où vous traversez toute l'Europe. C'est un roman
pour
formidable. Et la réalité, c'est quoi?
Il ne s'est rien passé. La réalité, il ne s'est rien passé. Et toutes ces histoires, elles sont nées dans mon cerveau l'été de mes 15 ans, l'été de la mort de papa, et où j'ai imaginé ce qui nous a manqué. Et cet été-là, j'ai caché à tout le monde qu'il était mort. Je ne l'ai pas dit en Irlande, pour qu'il reste vivant encore un mois. Et cet été-là, j'ai commencé à m'inventer un père. Et je testais dans mon club de voile mes histoires. Et puis ça donnait des livres plus tard adultes qui sont remplis de mensonges, qui ont du sens.
Alors, parce qu'ils m'ont sauvé. En même temps, on dit toujours que les romanciers sont les premiers des menteurs. Françoise Sagan disait, si vous racontez votre vie dans un roman, vous n'en écrirez qu'un.
Ce sont des menteurs, mais simplement ils ne le disent pas. C'est-à-dire qu'ils s'enferment dans leur personnage. Et ça se finit parfois avec un coup de fusil, je pense à Romain Gary.
Oui.
C'est-à-dire qu'en fait, c'est très dangereux de se quitter. Il faut pas se quitter. Et j'ai écrit ce livre pour ne pas me quitter. Et pour que mes lecteurs ne se quittent jamais. Et ça sauve, hein. Sur le moment, ça sauve. Mais sur la durée, ça vous tue. Ça fait de vous un absent. Et un absent, ça fait un écrivain qui, sur la durée, ce que j'ai été ces dernières années, écrivait une littérature qui tournait à vide. Parce que j'étais absent. Et l'immense bonheur d'écrire ce livre, c'est que j'ai l'impression de revenir à l'intérieur de ma vie en l'écrivant.
Vous disiez parfois, d'ailleurs je me souviens de vous avoir reçu dans d'autres émissions, vous disiez parfois en parlant de certains livres, oui alors c'est un livre en attendant le suivant. Vous aviez cette formule, vous disiez oui alors celui-là, oui c'est un livre que j'ai voulu écrire pour me détendre en attendant le suivant.
J'étais absent.
Est-ce qu'on doit dire pardon à tous ces lecteurs alors pour tous les livres précédents?
Non, pas tous. Certains ont eu beaucoup de sens parce qu'ils m'ont sauvé. Ce sont des livres très malades, mais qui ont leur logique. Lorsque j'ai écrit L'île des gauchers, ça a fait rêver des millions de gens, parce que je ne supportais plus le monde des droitiers, parce que j'étais droitier moi-même. J'appartenais à un monde dans lequel j'asphyxiais. Mais en revanche, leur dire pardon, oui, d'avoir joué un rôle sur la scène publique. D'avoir joué à l'auteur romantique que je n'ai jamais été dans ma vie. Oui, il y a eu une forme d'escroquerie.
Vous...
Mais on peut en sortir. Et c'est le sens de ce livre.
Vous risquez des couteaux dans le dos, quoi, peut-être. C'est merveilleux, ça, de marcher dans la rue, d'écrire un livre et de se dire « Je vais peut-être finir avec un couteau dans le dos. »
Ben, j'ai cru ça avant la parution. Et en fait, on s'aperçoit que les autres font pareil.
Et ceux que vous mettez en cause directement, ils ne réagissent pas.
Si, parfois ils sont dans une colère absolue, oui. Parce que nommer les choses, c'est effarant pour ceux qui sont dans le déni. Mais le sang recommence à circuler lorsque vous nommez les choses. Le sang, la vie revient. Alors, ça peut revenir à travers des engueulades, mais ça revient.
Merci beaucoup Alexandre Jardin et Cali. Vous avez tous deux fait preuve ce matin de beaucoup d'estivalitude. Alors Cali, je rappelle que votre livre « Cavale, ça veut dire s'échapper » paru au Cherche Midi est toujours dans les bonnes librairies. Il fait suite, d'une certaine façon, à « Seuls les enfants savent aimer », ouvrage dans lequel vous parlez de votre enfance. Et je n'oublie pas votre dernier disque, Cali chante Léo Ferré chez BMG. Et Alexandre Jardin, votre bombe humaine, donc, se nomme « Le roman vrai d'Alexandre » et c'est publié par les éditions de l'Observatoire, les éditions qui vous ont accepté, puisque vous nous l'avez expliqué. Vous pouvez bien entendu réécouter et podcaster cette émission sur le site de France Inter. Et alors, la réalisation est de Juliette Medevielle. La préparation, Saad Merzak, Rebecca de Nantes, Pierre Goulencourt et Astrid Landon. Et à la technique aujourd'hui, Pauline Laverdure. Notre boutique éphémère ouvre bien sûr demain matin à 9h sur France Inter. Et je n'oublie pas de vous dire que juste après le flash, vous retrouverez Heureux Hommes, Laurent Delmas, pour Ciné qui chante. Messieurs, dames, à demain.